Microscopie. Une émission proposée par Jean-Pierre Allaud. Microscopie.
Gilles Ladd.
Jean-Pierre Allaud.
Gilles Ladd, vous êtes né à Figeac il y a quelque 67 ans. Vous êtes un amoureux des mots et des lettres en général. Du reste, jusqu'en 2011, vous fûtes professeur de littérature, un métier d'enseignant que vous avez exercé en Moselle, puis à Orléans, et dès 1982 dans votre pays, je veux parler du Quercy. En réalité, c'est dans la région toulousaine et dans les causes précisément du Quercy que le contemplatif que vous êtes trouvera la matrice de ce que vous allez écrire par la suite. Car vous publiez des poèmes, vous avez obtenu du reste le prix Antonin Artaud en 1994, mais aussi de la prose, et vous écrivez également des pièces de théâtre, vous êtes un grand voyageur devant l'éternel, l'Europe est votre jardin, et l'Italie occupe une place un peu particulière dans votre cœur, on en parlera tout à l'heure. Parmi vos dernières parutions, il y a ce gros ouvrage intitulé « Quercy de ciel, de roche et d'eau » aux éditions Tertium, qui se veut un inventaire de tous les paysages de cette ancienne province que fut le Quercy. Gilles Ladd, au fil des années, vous avez tissé une œuvre qui se bâtit un peu comme les murets de votre région faits de pierres sèches, posées les unes sur les autres, et sur lesquelles le temps ne semble pas avoir de prise. Il montre le chemin, des chemins où l'on se repose à l'ombre de quelques chênes séculaires, où l'on respire l'odeur des buis sauvages après l'orage. Quand vous regardez derrière vous, Gilles Ladd, si c'était à refaire, est-ce que vous emprunteriez le même chemin ?
J'ai l'impression que oui, même si il y a des bifurcations dans la vie qui vous laissent dans l'expectative. Par exemple, j'ai passé 5 ans à Orléans comme enseignant, et au bout de 5 ans, j'avoue que je commençais à m'habituer à cette région de grandes plaines, de Loire, avec les étendues de la Beauce, hein, des grandes plaines à blé. Et si j'avais été contraint de rester, disons, dans cette partie nord de la France, je pense que j'aurais aussi fait mes racines. Je crois qu'enfin, il y a toujours la possibilité de faire sa vie ailleurs. Mais c'est vrai que chez moi, la force de l'attachement au Quercy était très grande, et j'ai fait évidemment mon possible pour y revenir. Hein. Donc il y a une démarche volontaire. Une démarche volontaire que je ne regrette absolument pas, mais je crois qu'il faut laisser les choses ouvertes dans la vie, c'est-à-dire que...
Oui, vous n'interdisez pas de découvrir d'autres espaces.
Voilà.
Alors, revenons au pays de l'enfance, comme disait François Mauriac. Tout débute dans le Quercy. Que faisaient vos parents, on peut savoir ?
Oui, mon père était fonctionnaire des impôts, il était receveur des impôts. Donc, il
collectait la gabelle, comme on disait autrefois.
Il aurait pu lui aussi faire d'autres métiers, mais il a été très marqué, comme toute sa génération, par la Seconde Guerre mondiale. Il a malheureusement perdu 9 ans de sa vie. Il a d'abord fait 3 ans de service militaire, puis 5 ans de... Il a été prisonnier d'Allemagne. Donc il a perdu carrément 9 ans de sa vie. Et lorsque la guerre a été terminée, il a fallu exercer un métier. Et il faut reconnaître que bon, il avait commencé les études de droit. Donc il a continué dans cette piste, mais je pense qu'il aurait pu faire autre chose. Il aurait été attiré, paraît-il, par le métier de dentiste. Enfin bon, disons que là aussi, c'est un peu le destin, quoi. Hein. Et donc...
Et votre mère ?
Ma mère était au foyer, comme on dit.
Oui, à l'époque.
voilà, c'est ça. C'est la pression sociologique, en quelque sorte, qui l'a... Et puis aussi la guerre, puisque ses études ont été interrompues par la guerre. Donc il y a un ensemble de faits qui l'ont amené à ne pas exercer de profession. Je pense qu'elle en a eu un certain regret, malgré tout. Ça faisait partie des choses qui ont existé pour elle, quoi.
Alors, avec un papa qui s'intéresse aux chiffres en tant que collecteur d'impôts, est-ce qu'il y avait une place pour la littérature dans la bibliothèque chez les Ladd ?
Ma mère était assez littéraire, oui. Ma mère m'a guidé relativement dans cette direction, sans excès, mais la poésie aussi. Elle avait pas mal lu les romantiques, je dois dire, les symbolistes, et puis les romans aussi. Enfin,
Était le premier livre qui a glissé entre vos mains et qui vous a procuré un plaisir, le plaisir de la lecture?
Oui, vous savez, moi j'avais des lectures assez sages, et finalement c'était dans les années 50, c'était la Bibliothèque verte, vous voyez.
Oui, les romans d'aventure.
Oui, les romans d'aventure aussi. Puis avec les copains, on était extrêmement branchés, si on peut dire, sur bon, par exemple, sur Bob Morane, vous voyez. C'était, oui. Je me souviens qu'il y avait cette fièvre. Mais aussi, je me souviens d'un livre d'aventure et presque écologique, quoi. Un certain, alors je sais pas, je crois qu'il était britannique malgré son nom à consonance française, il s'appelait Eric Collier, et c'était un livre d'exploration de la Colombie-Britannique, qui est une province du Canada à côté Pacifique.
Oui.
Et qui m'avait passionné parce que vraiment on était en contact avec les rocheuses qui tombent sur le Pacifique, il y a des élans, il y a cette vie de trappeur, enfin voilà, ça m'avait beaucoup plu aussi.
En fait, le plaisir était dans l'imagination qui travaillait à outrance, hein, c'est
voilà,
ça.
Voilà. Hein. Et je dois dire aussi, là, un élément important biographique, c'est que donc mon père a un peu circulé, pas beaucoup, on restait dans le. Dans la région toulousaine, en gros.
Il était en poste à Toulouse ?
Voilà, non, il a longtemps exercé à Castelsarrasin.
Tarn-et-Garonne.
Tarn-et-Garonne, vallée de la Garonne, en gros, quoi. Hein. Mm-hmm. Et donc, pays de plaine. Et comme nous revenions souvent dans la maison familiale de la vallée du Célé, où mon grand-père, qui était veuf, vivait toujours, j'ai très, très tôt senti le contraste entre la nature quercinoise la plus âpre, parce que la vallée du Célé c'est assez escarpé, assez rude au point de vue géologique, et la plaine. Et je ne sentais pas du tout la même ambiance, et ce contraste, si vous voulez, me marquait beaucoup, et je dois dire que je ne me plaisais pas tellement au début à Castelsarrasin, et j'avais hâte de revenir.
C'est Morne-Plaine, hein.
Voilà, Morne-Plaine, ah. Voilà. Morne-Plaine et un climat particulier avec des hivers humides et pleins de brouillard, ce qui a son charme aussi, parce que ce sont des ambiances assez fortes aussi. Je ne dénigre pas du tout ni Castelsarrasin, ni sa nature, ni son climat. Je veux dire que
il y avait un vrai contraste.
Et donc, dans les longues heures de classe, même au primaire, je rêvais au Quercy ensoleillé.
Voilà. Oui, le temps vous semblait beaucoup plus long à Castelsarrasin que le Gilles Lade en culotte courte qui arpentait la vallée du Célé. Hein.
C'est à peu près ça, oui. Ouais. C'est à peu près ça, oui.
Donc, votre maman vous incite à lire, elle met quelques livres entre vos mains. Vous décidez de vos études ou c'est la vie qui vous a porté vers l'enseignement ?
Bon, j'étais plutôt un bon élève, même si j'étais déjà trop tourmenté, je vais dire, pour m'investir totalement dans les études, quoi. Il y avait toute une part de moi qui bouillonnait, qui m'empêchait de vraiment investir totalement le champ scolaire. Enfin, j'avais tout de même de bons résultats. Et c'est vrai que j'ai tenté une première piste vers la fin de du secondaire, donc vers pensant des métiers parascientifiques qui me mettraient en rapport avec la nature, on va dire, le monde extérieur, genre ingénieur agronome, des choses comme ça.
C'est ça.
Et puis,
d'écologie avant l'heure.
Voilà, un peu d'écologie avant l'heure. Et malheureusement, des matières comme la physique ou même les maths, ça ne marchait pas assez. Et donc, il a fallu que je me décide à passer en philo, quoi. Hein. Et alors là, j'ai vraiment trouvé la véritable ouverture. D'abord, la philosophie qui m'a beaucoup, beaucoup pris, quoi. Hein. Même longtemps après, je suis toujours attiré par la philosophie. La littérature, bien sûr. Et après le bac, j'ai poursuivi un peu en lettres supérieures. à Fermat, ici, à Toulouse, et où j'ai trouvé vraiment, évidemment, des professeurs remarquables, des camarades très cultivés aussi, puis très, plus que moi, puisque j'étais resté un peu en retrait du plus gros travail. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a des lycées peut-être où il y avait un peu plus d'incitation que le lycée tranquille où j'étais. Et donc j'ai découvert énormément de choses et je dirais que c'est tout de même une base essentielle de ma formation parce que, bon, je n'avais pas l'ambition d'intégrer normale supérieure et puis je n'avais pas ce goût-là, quoi. J'étais trop sauvage, on va dire, pour entrer dans les grandes machines, dans les grandes arcanes de l'université française. Je préférais faire des études, somme toute, assez classiques.
Pour garder une certaine liberté,
voilà,
indépendance.
Liberté, oui.
La poésie est venue, cet intérêt pour la poésie, oui. Ça a été quasiment spontané très tôt ou c'est venu plus tard?
Eh bien, c'est assez particulier, disons. Je sais que à la fin du primaire, j'aimais beaucoup la poésie. Je relisais avec grand plaisir et émotion les poèmes que nous donnaient
l'instituteur de l'époque.
Voilà.
Car il y arrivait on récitait des poèmes à l'époque,
absolument.
Une notion complètement périmée aujourd'hui.
Voilà. Et alors, en CM2, nous avons eu un instituteur remarquable, un monsieur qui avait beaucoup de prestance, qui s'habillait presque en costume trois pièces, quoi, et qui aimait beaucoup la poésie. Je dis son nom puisque c'est une forme d'hommage. C'était monsieur Sourbier, qui était de Lauzerte, en Quercy,
oui.
Et qui écrivait aussi des poèmes. Et je me souviens, là, je le dis sans coquetterie, mais il nous avait, je crois que c'était un poème de Ronsard, je n'en suis pas sûr, il me semble. Et quand je l'ai récité, je l'ai récité avec beaucoup de
conviction.
De conviction, voilà, de sincérité. Et j'ai vu son émotion tout de même. Et puis il a dit un mot pour me féliciter. Mais j'ai senti que... Et alors moi qui étais très timide, parce que je suis un grand timide, et j'étais... un grand timide. Et malgré tout, j'avais un peu franchi ce barrage de la timidité. Et j'avais senti cette émotion de la poésie, quoi. Et puis après, si vous voulez, l'adolescence a été un moment assez presque violent pour moi. C'est-à-dire que j'étais un peu bagarreur, j'étais un peu... je m'éloignais un peu de la sensibilité poétique, on va dire, quoi, de la...
Oui, parce que, comme on dirait au rugby, voilà. Vous entrez dans la mêlée un peu tête baissée.
Un peu, oui, enfin, sans excès, mais il y avait une forme de révolte en moi qui...
Oui, mais est-ce que c'était pas pour compenser une sensibilité extrême?
Je pense, oui, c'est ça. C'est certainement ça.
Un des paradoxes, finalement.
Voilà. Et qui n'arrivait pas à s'exprimer dans ce monde très corseté de l'avant 68. Parce que moi, j'ai passé mon bac en 67, et les années 60 jusqu'en 67 étaient très corsetées. On n'incitait pas les jeunes à s'exprimer, l'émotion, etc. Tout ça, c'était pas du tout bien vu. Et puis, il fallait travailler strictement, quoi. Et donc, voilà, ça c'est... Ma sensibilité n'était pas morte du tout, mais bon. Et puis...
Dès lors que vous avez intégré la poésie, quand vous avez débité ce texte de Ronsard,
oui.
Et que vous avez gagné finalement un pari sur vous-même, c'est-à-dire la timidité, vous l'avez rengainée quelque peu. Est-ce que de là à aimer la poésie, à lire de la poésie jusqu'à écrire, c'est autre chose?
C'est tout à fait autre chose. Et alors là, bon... ce qui s'est passé en gros, il a fallu vraiment un événement intérieur, un événement personnel déterminant. Et ce fut tout simplement après même le passage à lettres supérieures ici à Toulouse, ça a été un moment de remise en question tout à fait radical. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les études, d'abord, je n'avais pas tellement envie de rentrer dans le monde des adultes, dans le monde de la profession, dans le monde, voilà.
Oui, il fallait gagner sa vie.
Voilà, voilà. C'est vrai que notre génération était très protégée. Bon, j'étais dans un milieu qui était un peu protégé, malgré tout.
Oui, avec un père fonctionnaire.
Oui, voilà, voilà, oui, oui, oui.
Ah, bon, ça,
une mère qui s'occupait de ses
enfants.
Enfants,
oui.
Donc, j'ai deux sœurs aussi, donc, qui s'occupaient de nous trois. Et il y avait une notion de cocon, un peu. Alors, ceci, et puis... effectivement, le fait même aussi d'exercer une profession encadrée ne me séduisait pas du tout. Il y a eu comme une crise qui un peu de...
Quel est passé le cadre de l'adolescence? On dit, il fait sa crise d'adolescence, mais vous l'avez eu peut-être un peu plus tard, non?
Oui, mais enfin, vous savez, l'adolescence, jusqu'à 20 ans...
Oui, c'est la géométrie variable.
Voilà,
hein.
C'est la géométrie variable. C'était un peu tardif, si vous voulez. Et donc, il y a eu cette remise en question très forte qui a pris la forme, on va dire, d'une dépression, quoi, hein, d'une,
oui.
Mais de quelque chose d'assez violent, quoi, hein, même de violent, intérieurement, quoi, comme une sorte d'implosion, on peut dire, c'est plutôt... il a fallu, pendant quelques temps, quoi, ce sont des choses qui ne se résolvent pas en 3 semaines, quoi. Si vous voulez, il y a eu cette...
Oui, on peut parler de déprime que vous avez surmontée au fil des mois, mais qui finalement a été salutaire, puisqu'elle vous a révélé tel que vous étiez dans
voilà.
Votre
sensibilité. Et donc, la poésie, ça, finalement, ça m'a permis de retrouver ce qu'était la poésie, ce qu'elle est toujours et ce qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire non pas un texte ou le fait de décrire des textes qui seront plus ou moins inspirés par des prédécesseurs, mais de reprendre à zéro le processus de l'écriture à partir de ce que l'on ressent profondément, de ce que l'on devine de soi, c'est-à-dire faire un travail vraiment de traduction.
Mettre des mots sur des émotions.
Voilà, sur des émotions, des interrogations, des images obsédantes, obsessionnelles peut-être, enfin des choses qui vous hantent, et de commencer vraiment très bas, très profond, quoi.
Comment ne pas écouter L'âme des poètes avec Gilles Lade, notre invité. Là, c'est pas L'âme des poètes de Charles Trenet, c'est celle de Benjamin Biolay.
Que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir qui battaient leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Chansons courent encore dans les rues. Leur âme légère, c'est leur chanson qui rende gaie, qui rende triste, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds.
La chanson de l'ami Charles Trenet, revisitée avec une nouvelle orchestration, signée Benjamin Biolay.
Radio Présence à Gourdon, 104.8. Microscopie. Jean-Pierre Allon.
L'invité de Microscopie cette semaine, c'est le poète Gilles Lade, poète et écrivain. Alors, on revient à ce terrain de l'enfance, de l'adolescence, donc les premiers poèmes, l'écriture. À partir de quel moment vous avez décidé de présenter vos poèmes, de les publier? Parce que la publication, c'est quand même la phase importante, non?
Et oui, 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 je me souviens de ces moments-là. J'ai hésité parce que on ressent très fortement qu'on s'expose finalement.
On se met à nu.
On se met à nu, même si le texte est lui-même assez impersonnel. Justement, enfin, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, écrire de la poésie pour moi, c'était traduire ce que je ressentais. Donc, il ne s'agissait pas d'une confession, d'une confidence au premier degré. C'était quelque chose d'assez élaboré. Mais malgré tout, on a le sentiment très fort de se livrer. Et donc, j'ai cherché quelques groupes ou quelques.
Quelques familles de poètes qui pourraient vous intégrer.
Alors à l'époque c'était plutôt, j'avais plutôt trouvé des cercles assez traditionnels, qui regardaient un peu vers la poésie rimée, alors que justement là, j'ai essayé très vite de m'affranchir de la rime. Pas de suite, hein, j'ai écrit des poèmes rimés que je ne renie pas du tout et que je présenterai sûrement un jour. Enfin, je les garde. Précieusement, je dirais, parce que j'estime qu'ils veulent dire quelque chose pour moi de très très important. Mais bon, une fois que je me suis affranchi de la rime, je n'ai pas trouvé d'abord. Hein. Donc, j'ai noué des amitiés très précieuses dans certains cercles, même à Toulouse en particulier, puisque j'étais étudiant, donc je pouvais faire les deux. Et le côté humain, vraiment très important, et bon... C'est tout ça, c'est vraiment à moi et c'est tout ça est très 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 riche. Et d'autre part, j'avais adressé mes textes à divers poètes importants, on va dire relativement importants. J'en citerai deux. D'abord, le poète qui était peut-être le plus admiré, le plus reconnu, et puis celui qui vraiment représentait pour les poètes de notre région la référence, parce qu'il y avait d'authentique chez lui, de pleinement sa vie d'écrivain et de poète était un témoignage absolu de la poésie. Alors c'était tout simplement un Montalbanais d'origine qui s'appelait Jean Malrieux. Jean Malrieux qui, après la guerre, est parti à Marseille, instituteur, et qui a fondé là-bas deux revues importantes, Action Poétique et surtout Sud. Et une revue qui avait été celle de Marcel Pagnol, anciennement, et puis ensuite de notre directeur. Et bon, Jean Malrieux est un homme qui garde, enfin il est décédé en 76, mais il garde
une aura.
Une aura, oui, une valeur de référence très forte actuellement aussi.
Alors que vous a-t-il dit quand il a reçu?
Il m'a dit tout simplement, c'était un homme qui était sans façon, qui était simple et sincère. Il m'a envoyé une lettre avec une belle écriture que j'ai gardée, mais je ne sais pas trop où elle est, mais enfin, je sais que je l'ai gardée. Il me dit, vos poèmes sont bons. C'est déjà beaucoup, vous savez, ça me suffisait. Vos poèmes sont bons parce qu'il n'était pas tendre dans son appréciation. Mais il me dit, je trouve que il y a une phraséologie, ou plutôt un aspect un peu oratoire qui est un peu poussiéreux. Il avait mis le mot poussière, alors il faudrait un peu décaper tout ça, en gros quoi, hein. Et puis j'avais aussi, alors là j'étais allé, je m'étais déplacé pour aller trouver Joseph Delteil.
Ah, Joseph Delteil, voilà, oui.
Qui était...
C'est pas le moindre, là.
Montpelliérain.
Oui.
Mais alors mon père avait, bon, après Castelsarrasin, il a été en poste 2 ans ou 3 à Cahors, et puis ensuite à Castres dans le Tarn. Hein. Et il se trouve que Joseph Delteil passait son été dans les fraîcheurs de la Montagne Noire, là-haut, tout à fait, sur les cimes, là, et dans un rameau, et il avait accepté de me recevoir. Et donc je crois que je lui ai envoyé par la poste mes poèmes, mes brouillons, écrits au crayon, hein. Et il m'avait reçu, je me souviens, c'est une chose quand même qui...
J'imagine...
Il m'avait reçu au bout d'un grand escalier de grange, je dirais. Il avait mis son bureau là sur un étage de grange. Et il m'attendait là-haut, j'avais monté son escalier. Il y avait son épouse qui était, une danseuse américaine. C'était une américaine, enfin, d'origine. Hein. Et c'était un couple de personnes âgées, quoi. Très charmant. Joseph Delteil était très, très doux. Hein.
Oui. Vous étiez impressionné, je présume,
oui,
non
oui,
vous aviez
oui,
quel
oui.
âge, là
ben, j'avais 22-23.
23 ans.
Oui, oui.
Et l'homme qui avait déjà une réputation très acquise,
c'est ça,
enfin.
Oui,
hein,
oui,
c'est
oui.
ça. Et que vous a-t-il dit ?
Eh bien, il m'a dit tout simplement...
Est-ce qu'il faut dépoussiérer, là aussi ?
Non. Et il m'a dit, en gros, que ça lui avait plu, hein, tout ça. Il m'a dit, c'est très bien, c'est... Il avait eu des propos très louangeurs que je ne répéterai pas parce que
oui.
ça pouvait me faire penser, ça pouvait me monter à la tête, ce qui n'a pas été le cas. Mais il m'a dit, voilà, est-ce que, ça m'a bien resté, je trouve que c'est très beau comme expression, il m'a dit, est-ce que vous êtes vraiment plein de vous-même ?
Ah, c'est alors, une belle expression,
voilà,
ça.
Et alors, j'ai essayé de lui faire préciser. Oui, mais il m'a dit, est-ce que vous êtes arrivé à votre maturité ? Est-ce que vous allez rester à ce niveau ? Est-ce que vous allez rester à cette plénitude, entre guillemets, quoi ? Et il avait senti juste, vous voyez, l'intuition extraordinaire là, du grand poète, de l'homme. Et il avait bien senti que c'est là que le problème était, c'est-à-dire que j'étais dans une phase d'exaltation et de
c'est le propre de la jeunesse,
voilà,
aussi.
C'est ça, voilà.
Hein, mais...
et alors, je sentais bien que la vague allait retomber, je le sentais. Je lui dis non, je pense que ça risque de ne pas durer, je lui dis en gros. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que peut-être un an plus tard, j'ai cette
exaltation,
cette force qui était réellement qui est charriée énormément d'images et de rythmes, elle est retombée et j'ai accepté ce mouvement qui m'a emporté vers une forme de silence finalement, parce que en même temps cette retombée m'amener vers le silence et vers des écritures beaucoup plus minimalistes, quoi, de quelque chose d'assez pauvre, enfin, de là où il y avait de longues phrases, il n'y avait plus que quelques mots.
Mais aller vers les purs.
Voilà, ça restait quand même de la poésie. Et même, d'autre part, je devenais professeur, je devais donc partir en poste. Et là, quand même, c'était partir en Moselle au début, c'était quand même très dur. Il fallait s'arracher au pays, il fallait assumer. Des classes, il fallait... enfin, c'était toute une autre vie qui commençait et qui, quand même, m'a requis totalement, quoi. C'est-à-dire que là, vous êtes... Il faut que toutes vos énergies, il faut tenir le coup, quoi.
Oui.
Et donc, la poésie, bon, ben, elle m'accompagnait à côté de moi, mais voilà, j'ai passé quelques années et puis, en même temps, il y avait la vie. Il fallait c'était la vie, tout simplement, qui...
Les élèves,
voilà.
les examens...
La vie personnelle.
Et la vie personnelle,
voilà.
les amours aussi, peut-être.
Voilà, hein, voilà, oui, voilà.
Hein,
voilà.
L'intimité...
voilà, tout, quoi. Hein, tout qui... Ben, il y a toujours le choix, évidemment, de prendre une marginalité totale. Mais je n'avais pas choisi cette voie, quoi, puisque j'étais entré dans une voie professionnelle. Et donc...
Est-ce que vous avez pris du plaisir à enseigner ?
J'ai eu quand même du mal, je dois dire.
Vous êtes très honnête, c'est bien.
Oui. J'ai eu quand même du mal parce que il y avait des tas de facteurs qui étaient contre, si vous voulez. D'une part, j'ai toujours été très émotif. très timide, très impressionnable.
Et quand vous aviez un élève un peu rebelle, il pouvait vous déstabiliser ?
Je pense que j'ai réussi quand même à surmonter. J'ai surmonté. Bon, c'est jamais facile. De toute façon, vous savez, les professeurs, la plupart, certains assument parfaitement la difficulté. Mais on est toujours confronté à des classes un peu difficiles. À l'époque, d'abord, elles étaient moins difficiles. Il y a 35 ans, 40 ans, elles étaient moins difficiles.
Aujourd'hui, l'autorité du prof est nettement plus remise en cause.
Donc c'est vrai que les professeurs généraux sont quand même durement affrontés à ce problème. Alors il y en a toujours une minorité qui s'en sort admirablement bien et facilement. Et puis beaucoup ont du mal aussi. Mais si vous voulez, j'ai dû beaucoup prendre sur moi. C'est pour ça que ça m'a totalement pris. J'ai dû beaucoup me concentrer sur moi-même pour assumer la totalité de la tâche, quoi. Et donc.
Et vous êtes revenu à la poésie de manière plus disponible dans votre tête à partir de quel âge ?
Écoutez, c'est pas très compliqué. Donc, je suis entré en poste, si on peut dire, en 77. Bon, il s'est passé bien. Il s'est bien passé 7 ou 8 ans. Et à l'époque, j'étais à Orléans. Et oui, j'ai senti que je voulais donner sa place à la voix intérieure, quoi, là.
Oui.
Et il y a eu un petit événement, je dis pas que c'est déterminant, mais enfin, qui m'avait paru important. Je me souviens, dans une librairie d'Orléans, je suis tombé sur un livre de René Guicadou, Hélène ou le règne végétal, qui est une sorte d'anthologie de textes de... Mais René Guicadou, qui était un poète de l'école dite de Rochefort-sur-Loire, et qui était un lyrique intimiste, très prenant, enfin, qui vraiment donnait toute son importance à la... une voix intérieure qui s'épanche librement, quoi, qui c'est pas vraiment de la confidence, ça peut être aussi une large adhésion à la nature, mais en même temps aussi le pathétique de la vie, quoi. Et donc
quand vous avez
m'a relancé, voilà.
Le fait d'avoir lu ce livre, d'avoir adhéré à ce qu'il écrivait, ça vous a incité à dire mais pourquoi moi aussi je coucherai pas sur le papier.
Voilà, et j'avais de toute façon une très grande je vivais très très cruellement le fait d'avoir arrêter l'écriture poétique. Je pensais la plupart du temps, tu n'écriras plus jamais.
Oui, mais j'étais un peu mutilé, quoi.
Voilà, j'étais un peu mutilé, j'étais frustré, j'étais malheureux. Je me disais, bon, c'était une belle aventure, mais bon, ça ne reviendra pas, en quelque sorte. Et donc là, il m'a aidé à... Et mon écriture avait changé, si vous voulez. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on voit que le silence... Et constructeur.
Bien sûr, car il permet de se régénérer aussi.
Voilà, voilà.
Et voilà.
Et on le constate. Et à ce moment-là, alors qu'avant, j'avais commencé par des poèmes rimés qui dataient dans la forme, puis ensuite un lyrisme un peu incontrôlé, qui avait quelque chose de l'écriture automatique, qui pouvait faire penser à Claudel, à Saint-Jean-Perse, mais je ne copiais personne, si vous voulez, mais enfin, c'était... Dans cette exubérance-là. Et puis, je me retrouvais finalement dans une expression qui était proche de ce qu'écrivaient mes compatriotes, les gens de mon âge, quoi. Vous voyez, j'avais rejoint les autres poètes, mais...
Donc c'était par là même une forme de renaissance pour vous, le fait que la poésie reprenait le dessus. On va continuer cette microscopie, Gilles Lade, mais on va évoquer la poésie de Ferrat avec cette très belle chanson « C'est beau, la vie ».
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson. Que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout. Que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter. Que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé. Que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau, la vie.
Jean Ferrat, c'est beau la vie dans Microscopie.
Radio Présence dans la Cité Mariale, 96. Microscopie. Jean-Pierre Allais.
L'invité de Microscopie cette semaine est le poète Gilles Lal, qui nous raconte sa renaissance par la poésie quand la plume s'est mise à courir sur la page blanche, et que ça a été finalement une forme de renaissance alors que vous avez pris les habits de prof de lettres, donc en Lozère, ensuite à Orléans.
En Moselle.
En Moselle, pardon. En Moselle, et ensuite donc à Orléans pour revenir chez vous, sur vos terres. Est-ce que, à partir du moment où vous avez obtenu votre mutation sur vos terres lotoises, ça a changé votre vie, votre regard aussi sur la poésie? Est-ce que l'homme Lad s'est modifié?
Je crois pas que ça ait changé quelque chose sur la poésie. Simplement, j'ai évidemment. Le Quercy, qui était pour moi une terre rêvée, en partie parce que je la connaissais quand même concrètement, mais il y avait une partie qui était rêvée,
sublimée.
Là, elle devenait concrète, et il fallait qu'elle ne se banalise pas trop, quoi. Bon, mais d'un autre côté, on vit, les choses sont naturelles, et il ne s'agit pas non plus de se créer des choses qui ne sont pas vraies, quoi. Mais donc. Il m'importait que les choses ne se banalisent pas trop, et donc j'ai fait l'épreuve de cette inconnue au début, et donc j'ai quand même exploré à nouveau pas mal de choses, pas mal d'endroits, et j'ai écrit plusieurs soit des recueils de poèmes, soit des textes
de la prose, des textes,
voilà.
Hein,
voilà pour
toujours très poétique, évidemment, parce qu'on n'échappe pas à ce qu'on sait faire. C'est-à-dire
quand
on vous lit. Alors le roman, c'est pas votre chose.
Non, j'ai écrit des récits qui sont d'une écriture romanesque, puisque ça raconte une petite histoire. Mais le problème, c'est pas le propos n'est pas tellement l'histoire, c'est plutôt le l'évocation de milieu ou de famille ou de. Mais c'est vrai que je n'ai encore jamais trouvé d'arguments suffisants pour faire un roman.
Et oui, alors que vous êtes un détecteur d'atmosphère, vous savez planter le décor.
Voilà, j'en suis resté aux récits, qui sont souvent des débuts de roman. Ça pourrait continuer, et je me suis arrêté au début, voilà.
Alors, vous avez beaucoup écrit, et je voudrais mettre l'accent sur cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Tertium, et qui relate un peu, alors ça s'appelle « Quercy de ciel, de roche et d'eau ». Alors, quand on connaît bien cette région, là, vous avez fait la synthèse entre ces cieux au-dessus de Rocamadour, ces causses avec la roche, et puis cette eau qui sinue dans la vallée du Célé ou dans les gorges du Lot. C'est un paysage quand même qui est extrêmement diversifié et très riche finalement. On a l'impression que selon qu'on se retrouve du côté de Martel ou qu'on est à Montcuq, c'est pas du tout la même ambiance.
Voilà. Et oui, si on analyse les choses un peu géologiquement, si on part des hauteurs du Ségala jusqu'à la vallée de la Garonne, on se rend compte qu'il y a absolument tous les paysages géologiques. Enfin bon, il y a le Massif central, il y a l'Écosse, il y a les vallées alluviales, il y a différents calcaires du bas Quercy, il y a des argiles du côté de Molière ou au-dessus de Moissac, et donc il y a absolument, et puis il y a le grand fleuve Garonne qui jouxte à peine le Quercy, mais enfin quand même, et puis il y a le Tarn à son embouchure, donc il y a absolument tous les paysages. C'est vrai que le plus emblématique, c'est le Causse, sur les Causses du Quercy, bien sûr, mais oui, moi ce que je retiens surtout, c'est l'extraordinaire acuité, si vous voulez, des paysages du Quercy central, qui font que lorsqu'on les a intériorisés, on a beaucoup de mal à s'habituer à un autre. Vous voyez, c'est-à-dire que les falaises, là, les vallées, c'est tellement coloré, c'est tellement escarpé, c'est tellement aigu et singulier.
Quand on a sillonné du côté de Cajarc-Figeac, comment aimer la Beauce après?
Voilà. Alors c'est possible, je vous dirais que c'est possible.
Alors oui.
Mais il faut une conversion là aussi. Il faut une sorte de conversion, il faut abandonner effectivement
Alors, il y a le relief, bien sûr, les paysages, mais il y a aussi l'habitat qui change. Oui. C'est vrai que plus on va vers le nord, on a ces toits pointus, et plus on va vers le Quercy blanc, les toitures sont nettement moins pentues.
Et oui, je crois que cette richesse, ça vous construit, quoi. C'est-à-dire que quand on passe effectivement des maisons du Ségala, certaines maisons du Ségala avec les toitures de loz et le granit, et qu'on arrive aux grandes, ce qu'on appelle les granges halles, les halles du Caussadé, c'est presque un continent, je dirais.
Oui.
C'est presque un continent.
On a changé de décor, là. Hein.
Voilà, et finalement, je me rends compte que, alors que je suis personnellement attaché, évidemment, par ma mémoire à certains paysages bien précis, j'ai réussi à aimer autant, si vous voulez, les paysages du Ségala ou du bas Quercy que les miens, entre guillemets. Et même la brique, parce que Montauban, qui a été, je dirais, restauré, c'est pas le mot, mais enfin, qui est vraiment repeint à neuf. Enfin, le centre de Montauban est très très beau.
Oui, le cœur, la place nationale et autres.
La place nationale,
oui.
Et puis même les grandes rues. Montauban a beaucoup d'éclat, un éclat un peu secret, parce que Montauban est une ville secrète aussi.
Une ville protestante,
voilà,
donc.
Une ville protestante, voilà.
Rien n'est simple.
Avec ces arcades qui rappellent celles de La Rochelle. Et je crois qu'il faut. C'est là que la contemplation et le regard, ce regard, si vous voulez, qui rejoint la poésie, d'ailleurs, qui fait silence. C'est-à-dire qu'on se met devant un paysage et tout simplement on le laisse parler. Vous voyez ? Par exemple, pour revenir à Montauban, comme quoi je ne parle pas nécessairement toujours du Causse, hein, car à Montauban, quand vous êtes sur le pont vieux côté
Ville Bourbon.
Côté Ville Bourbon. Si vous pouvez méditer aussi sur l'histoire, parce que depuis Saint-Théodore à gauche jusqu'à l'ancienne abbaye de Monterriol à droite, vous avez 2 kilomètres là.
D'histoire qui, voilà. Qui défile devant vous, dans un même paysage.
Vous me parliez tout à l'heure de Florence, et je pense qu'il y a quelque chose qui peut rapprocher aussi dans... Cette ampleur architecturale et monumentale, quoi.
Oui, du reste, quand on va vers les paysages du côté du Tarn, on dit que c'est la Toscane du sud-ouest. Et vous qui aimez particulièrement l'Italie, vous avez l'impression d'être parfois un peu sur vos terres du sud-ouest.
Enfin, il y a l'histoire. Et je crois que justement, ce qui est intéressant vraiment dans le Quercy, c'est qu'on a à la fois des paysages très humanisés, surtout dans le bas Quercy où il y a moins de relief peut-être et où finalement l'empreinte humaine a plus facilement s'installer, qui font penser effectivement à l'Italie, et puis des paysages vierges comme la Brogne, la forêt de la Brogne, où vraiment on a l'impression que là l'homme n'est pas venu, presque pas, quoi, que c'est purement de la pure nature, ou alors les falaises qui sont aussi de la pure nature.
Alors qu'on sait que l'homme s'y est installé pas très loin, de Pechmerle, de Bruniquel, dont on a appris que l'homme a séjourné.
Mais évidemment, il a occupé, mais ça modifiait.
C'est vrai.
Ça modifiait la roche elle-même, évidemment.
On a eu l'impression que en écrivant ce livre Quercy de ciel, de roche et d'eau, finalement vous avez fait le tour du propriétaire.
Oui, c'est un peu ça.
Ça vous a permis de revisiter et peut-être même de découvrir des coins que sur lesquels vous aviez survolé un peu, hein, c'est ça.
Oui, parce qu'il y a je connaissais bien le Quercy, mais j'ai découvert certains villages, bien sûr. Des hameaux, je ne suis pas passé absolument partout, bien sûr, ce n'est pas possible.
Mais le poète peut passer partout, lui.
Dès qu'il y a un aperçu, il suffit de voir un peu.
Pour imaginer le reste.
Voilà. Mais disons que j'avais trop d'éléments personnels pour ne pas avoir envie de faire cette globalité, quoi. Bon, il est bien évident que je ne pourrais pas le faire pour un autre endroit parce que ça prend trop de temps.
Oui.
Mais là. C'est une façon de rendre hommage, vous voyez. C'est pas une affaire personnelle. C'est une façon de rendre hommage à un ensemble naturel et historique qui existe, quoi. C'est vrai que le Quercy, ça existe historiquement, quoi. Hein.
Bien sûr.
Et je crois qu'il est bon de mettre ensemble le bas et le haut qui ont été séparés par l'histoire, vous le savez. Tarn et Garonne, l'autre. Hein.
Bien sûr.
Et de les remettre ensemble. Pour cette
réalité. Retrouver une forme d'unité. On arrive au terme de cet entretien, Gilles Lade. Aujourd'hui, vous n'enseignez plus, donc du coup, vous avez davantage de temps pour écrire, non ?
Oui, bien sûr. Donc là, je m'en suis, ça m'a servi à écrire au moins ce livre. Hein. Néanmoins, je ne suis pas de ceux qui écrivent sans arrêt. J'ai quand même besoin de trouver quelque chose qui m'accroche, hein, qui me donne un thème, si vous voulez, un peu nouveau. Enfin, quelque chose qui naisse un peu des profondeurs, quoi. Hein. Comme je ne suis pas historien, que je ne suis pas documentariste, que je n'ai pas sous le coude de grosses documentations.
Mais vous avez la curiosité pour vous, parce que vous êtes un homme curieux, intuitif, et le poète, quand il ne sait pas, il invente. Ouais. C'est un des privilèges donc, de la poésie. Je vous remercie infiniment, Gilles Lade, d'avoir accepté cette invitation.
Et merci à vous, c'était un grand plaisir.
C'était la microscopie de Gilles Lade, émission réalisée par Christophe Aubry et produite par Jean-Pierre Allot.